Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Gabilier, avec qui nous allons parler de chance, d'optimisme et d'art de changer de vie. Philippe Gabilier est professeur de psychologie du comportement et de leadership à l'ESCP Europe et conférencier spécialiste du management positif et des stratégies mentales de la réussite. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur les thèmes de la chance, de l'audace, de l'optimisme et il est impliqué dans le think tank international Optimistes sans frontières et dans la Ligue des optimistes de France. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, pour te présenter, est-ce que tu peux nous expliquer comment on consacre sa vie à aider les autres à être plus heureux ?
Je pense que c'est quelque chose qui se met en place assez tôt. Il se trouve que moi, par le plus grand des hasards, j'ai démarré dans le conseil et je me suis retrouvé à faire du conseil dans un domaine que je ne connaissais absolument pas. C'était les hasards de la vie, hein. Je me suis retrouvé à faire du conseil en force de vente. Et donc moi qui venais du monde des universitaires, des sociologues, etc., et des psychologues sociaux, je me suis retrouvé envoyé dans le monde des vendeurs, des commerciaux. Et c'est un monde qui m'a vraiment... C'est le premier monde professionnel que j'ai connu. Et c'est là où j'ai été confronté à des gens qui laissaient jamais tomber, qui y croyaient, qui se laissaient pas jamais déborder, pas trop longtemps en tout cas, par la déprime ou tout ça. Et professionnellement, c'est là où ça a commencé. Puis après, je me suis intéressé à d'autres choses, en ressources humaines, bien évidemment. Mais ça s'est mis en place assez vite grâce à ce passage par le monde des vendeurs qui, pour moi, a été une vraie révélation. C'était une population qui m'a beaucoup appris.
Alors, est-ce qu'on peut définir l'optimisme, s'il te plaît ?
Oh oui, on peut le définir. On peut dire que c'est une attitude. Alors après, on pourra discuter de la nature de l'attitude, mais l'optimiste, c'est une attitude qui va avoir vocation à affronter, nous met en situation d'affronter toute situation d'incertitude de façon la plus confiante et la plus active possible. Voilà. Donc, quelqu'un avait fait une très belle définition de l'optimisme que j'aime beaucoup. C'est le psychiatre Christophe André, qu'on connaît bien à l'APM. Il est intervenu souvent pour nous et qui disait dans le fond, l'optimisme, c'est deux choses. C'est une confiance a priori dans l'avenir, mais attention, toujours assortie de la certitude qu'en cas de difficulté ou de problème, on saura trouver une solution et on saura réagir. Il y a vraiment cette espèce de double face dans l'optimisme, confiance a priori et préparation pour une action à venir, même si on ne la connaît pas encore.
Et c'est ce qu'on doit attendre d'un bon leader, à ton avis ?
Oui, sachant que l'optimisme est une ressource importante, il me semble, pour mobiliser les gens. C'est très compliqué de mobiliser des personnes en étant pessimiste. En revanche, un pessimisme intelligent, un pessimisme créatif, un pessimisme tonique, pour un patron, c'est très important aussi parce que je crois que c'est dans Le Barbier de Séville, la pièce de Beaumarchais, qu'un des personnages dit à un moment donné cette phrase qui s'adapte à mon avis très très bien aux dirigeants. Il dit « Je préfère craindre sans raison que m'exposer sans précaution ». Voilà, comme quoi il faut savoir utiliser les deux, mais j'ai l'habitude de dire qu'un bon équilibre, dans le fond, pour avoir une vie heureuse et surtout être un homme ou une femme capable d'entraîner les autres, c'est d'avoir un 80-20, quoi. Allez, un 80% d'optimisme bien activé et on se garde 20% de pessimisme intelligent pour les situations compliquées. Et avec ça, on devrait pouvoir s'en sortir et puis aider les autres à s'en sortir aussi. Voilà.
Et alors, s'il existe optimiste sans frontières, c'est que ce n'est pas une question culturelle finalement, ni sociale
ça. Non. Non, en tout cas, quand ça a été bâti, au départ, ça vient pas de nous. Hein. Ce sont des Belges au départ qui ont créé ce mouvement. Et nous, on a rejoint ça en 2010 parce que avec des gens du monde de l'édition, quelques people du monde de la culture, on avait Jean Dormesson avec nous, Eric Orsena, Eric Emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard. On a lancé la Ligue des optimistes de France, qui a été la branche française de cette organisation et qui aujourd'hui d'ailleurs existe toujours. On a 35 000 membres sympathisants. Ça correspond en fait au nombre d'abonnés de la lettre optimiste qui sort tous les lundis matins. Et voilà, c'est un mouvement qui s'est lancé comme ça, un peu sur un coup de tête, hein, c'est un peu surréaliste dans le fond, surtout pour des Français qui avions la réputation de ne pas être quand même des très très grands optimistes. Ça s'est lancé comme ça et ça a fait son bout de chemin et maintenant on a une trentaine de délégations régionales. Voilà. Et dans beaucoup de pays, ça a bien accroché aussi, en Europe du Nord, pas mal, un peu en Afrique aussi. Et voilà, donc chacun, après chaque pays vit sa vie un peu à sa façon. Nous, on est très, très impliqués en France sur notre ligue française, mais il y en a en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, dans certains pays d'Afrique subsaharienne, etc. quoi.
Alors là, pendant qu'on enregistre, on est en pleine crise du Covid-19, on est même encore confiné. Ils parlent de quoi en ce moment, les optimistes de la Ligue, dans leur newsletter?
Ben, en fait, dans la newsletter, les dernières newsletters qui sont sorties, c'était surtout comment faire avec. C'est-à-dire, encore une fois, l'optimisme, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est surtout pas dire que tout va bien. Parce que voilà, l'optimisme n'est pas opposable à la fatalité, l'optimisme n'est pas opposable au malheur, et puis en l'occurrence, l'optimisme n'est pas opposable aux pandémies. En revanche, quand un événement comme celui-là arrive, c'est-à-dire une situation objectivement difficile, inconfortable, dangereuse aussi pour certaines personnes, pour certains profils, quand une situation arrive, il ne s'agit pas de pleurnicher 107 ans en disant « Oh là là, pourquoi encore ça nous est arrivé, la faute à qui ?» L'optimiste vous dira « Voilà, c'est arrivé, on est dedans, c'est un fait. Maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on pourrait bien essayer d'en faire ? À la fois individuellement, socialement, dans l'entreprise, pourquoi pas, mais c'est là, on en fait quoi ?» Et il y a cette espèce de logique liée à l'optimisme qui est de dire « Essayons de voir ce qu'on peut faire du réel. » Moi, j'ai souvent défini l'optimisme comme étant c'est mettre le réel, mettre la réalité sous tension positive. Et ça ne veut pas dire que tout va bien, parce que là, en l'occurrence, on ne peut pas le dire. Hein. Mais on dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut essayer d'en faire ? Et on voit, comme par hasard, que cette situation crée des choses. Elle crée des solidarités, elle crée de la créativité, elle crée, dans le fond, il y a à la fois, bien sûr, des moments difficiles et douloureux, mais même en temps de confinement, dans les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup d'humour qui se balade, beaucoup d'initiatives. Il y a aussi des jolies choses qui sont en train de se faire du fait de cette situation dont pourtant ce serait bien passé.
Alors, tu as travaillé beaucoup sur la chance également, puis tu as cassé beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de la chance
L'idée reçue, la grande idée reçue, c'était de croire que ce que l'on appelle habituellement la chance, c'était essentiellement un événement super génial, mais totalement inattendu, et qui arrive de façon non maîtrisée. Alors, sans compter tous ceux qui croient, parce que voilà, c'est respectable, hein, que certains auraient été touchés par le doigt ou le regard de la chance, où ils auraient une bonne étoile. Donc, il y a ceux qui vous disent c'est du hasard, puis tu as ceux qui vont te dire il y en a qui l'ont pas, ça nous dépasse, c'est de la métaphysique, etc. Et moi, je suis psychologue social au départ, donc je dis non, on peut toujours dire ça pour la chance, la chance isolée, le coup de bol isolé, la personne qui gagne au loto la première fois où elle joue alors qu'elle n'avait jamais joué avant. C'est statistique, tout ça, celle-là a gagné, génial. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la chance récurrente, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui, dans leur vie, semblent avoir plus de chances que les autres. Alors, c'est généralement pas des chances, d'ailleurs, c'est pas très hollywoodien, hein, comme chance, hein, c'est pas des choses formidables. C'est des petites choses, des rencontres intéressantes, des opportunités d'affaires, des événements dont ils ont su tirer parti qui sont arrivés au bon moment. Comme si un certain nombre d'individus avaient une capacité à tisser autour d'eux les conditions pour attirer toute une série d'événements positif. Et alors là, pour le coup, ça intéresse le psychologue social, parce que ça signifie que la chance, dans ce cas-là, n'est pas une façon d'être, mais la chance, c'est une façon de faire, c'est-à-dire c'est un mode de comportement en situation. C'était là où était partie l'idée que la chance était peut-être, hypothèse de chercheur, mais c'était peut-être une compétence, et si c'était une compétence, on devait pouvoir arriver à la travailler. Voilà, c'est par mes travaux là-dessus. Alors, j'étais pas le seul, puisqu'à l'époque, il y avait aussi en Grande-Bretagne Richard Wiseman qui a beaucoup travaillé dessus. Et voilà, moi en France, je m'y suis collé aussi sur ce thème-là.
Alors, un dirigeant qui viendrait te voir, qui te dirait j'aimerais avoir plus de chance, qu'est-ce que tu lui conseillerais de travailler alors comme compétence
Déjà, le dirigeant, on se prendrait un café ou autre chose, et je dirais racontez-moi déjà dans votre vie jusqu'à ce jour, si vous êtes dirigeant, il y a des tas de fois où vous avez eu de la chance, c'est-à-dire il y a tout un tas de situations dans votre vie où le hasard a dû s'inviter à votre table, le hasard positif. Alors racontez-moi un peu quelques coups de chance que vous avez pu avoir. Et puis en discutant, je pense qu'on se rendrait compte que ce que l'on appelle la chance, se présentent presque toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 modalités qui, à elles seules, représentent 95% des événements chanceux qui peuvent nous arriver dans une vie. D'abord, il y a des rencontres, souvent inattendues. Je rencontre quelqu'un que je n'étais pas censé rencontrer. Il y a eu une rencontre inattendue qui a généré quelque chose. Deuxièmement, la chance va se présenter parfois sous la forme d'une information providentielle. Dans un journal, au détour d'une conversation avec quelqu'un, sur un blog, sur un site internet, une conversation captée dans un bistrot, et je tombe sur une info qui, pour moi en tout cas, tombe à pic à ce moment-là. Deuxième exemple. Ensuite, on a des coups de chance qu'on pourrait dire liés à des territoires. On va me proposer de m'intéresser à un sujet, de me pencher sur un métier, d'accompagner une délégation dans un pays étranger que je ne connais pas pour l'instant. On me l'a demandé à moi parce que ceux qui devaient y aller étaient malades, étaient pris. Ça m'est tombé dessus un peu par hasard, cette demande. Et là, je vais découvrir, par hasard en apparence, un monde extraordinaire, un nouveau domaine, un nouveau pays, un nouveau marché. Rien ne m'aurait prédisposé à faire ça. Et il y a eu un concours de circonstances inattendu qui a fait que. Troisième possibilité de chance. Et puis, il ne faut jamais oublier, la quatrième grande catégorie de chance, c'est la malchance. C'est-à-dire le pépin. Voilà, l'accident, la rupture inattendue, l'échec qu'on n'a pas vu venir, vraiment le manque de bol absolu. Et cette malchance va avoir une caractéristique, elle va se révéler porteuse de ce qu'on pourrait appeler des avantages décalés. C'est-à-dire que c'est terrible ce qui m'arrive pour l'instant, mais il va apparaître que grâce à ça, dans 3 semaines, 2 mois, 6 mois, 1 an peut-être, ça va enclencher un ensemble d'actions, voire je vais moi-même enclencher face à cette malchance un ensemble d'actions qui feront que peut-être dans X temps, ça se révélera avoir été l'un des coups de chance de ma vie. Voilà. Donc c'était aussi une façon de... Moi j'ai toujours dit, le point de vue scientifique, la chance c'est d'abord et avant tout une catégorie de l'expérience. C'est une façon de regarder la réalité et d'agir en situation, de prendre des décisions dans des situations incertaines ou ambiguës ou de bifurcation. Et on saura bien sûr qu'après, si c'était de la chance. En ce sens d'ailleurs, les grands chanceux, même si ce ne sont pas des joueurs au sens du jeu de casino, mais souvent les grands chanceux sont des hommes ou des femmes qui n'ont pas peur de prendre des paris sur un lieu de vie, des paris sur quelqu'un, des paris sur des gens, des paris sur des situations. Voilà.
C'est pour ça qu'on dit que la chance sourit aux audacieux, alors.
Oui, parce que dans le fond, elle nécessite de se mettre en mouvement. Et à contrario, on se dit, mais dans le fond, ça veut dire quoi les gens qui n'ont pas de chance? Alors ça, c'était une chose que les chercheurs ont découverte, qui est assez intéressant. Le dictionnaire, en fait, le Larousse nous dit, le contraire de la chance, c'est la malchance. Bon. Comme si les deux mots, parce qu'ils sont, c'est ce qu'on appelle des antonymes hein, en grammaire, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est-à-dire que le contraire d'un chanceux, c'est pas un malchanceux. Non, non. Le contraire d'un chanceux, c'est quelqu'un à qui il arrive rien. C'est ça. C'est-à-dire que la vie sans chance, c'est pas la vie malchanceuse. La vie malchanceuse, c'est une vie où il y a plein de problèmes, quoi, des tas de soucis. Non, non. La vie sans chance, c'est juste une vie banale, morne, répétitive. Et la caractéristique de ces vies-là, c'est que c'est souvent voilà, je me suis enquisté dans une zone de confort, je suis ni heureux ni malheureux, il m'arrive rien de particulier, je suis dans une espèce de, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une sorte de no opportunity land, quoi. Voilà, il n'y a pas d'ouverture. Et donc, beaucoup de gens disent, mais moi je voudrais qu'il m'arrive des trucs, quoi. Alors, idéalement, on voudrait qu'il nous arrive des choses... qui nous fasse sortir de cette zone-là, mais en passant par la case chance. Ça, c'est l'idéal, quoi. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, ils vont souvent ressauter dans le grand bain des opportunités, mais le prix à payer, ça sera de passer au départ par une case malchance, c'est-à-dire c'est un pépin, une souffrance, une difficulté, un échec, qui va véritablement relancer la machine et nous créer un nouveau lien avec notre écosystème, quoi, de notre environnement.
Alors, l'étape d'après pour le chanceux ou celui qui cherche à le devenir, c'est... changer de vie. Alors toi, tu as publié un livre qui s'appelle « L'art de changer de vie en 5 leçons ».
Alors ça, c'était un sujet. Je suis arrivé à ce sujet parce que beaucoup de gens en fait m'en parlaient. Et une enquête était sortie à l'époque dans la presse économique, disant que 70% des Français envisageaient s'ils avaient la possibilité de changer de vie. Alors, ce qui est quand même extraordinaire. Et surtout encore une fois, voilà, pour celui dont le métier c'est d'accompagner autrui, c'est intéressant. Ça, je voudrais changer de vie. D'autant plus qu'on a envie de dire, mais attendez, non, vous avez, désolé, monsieur et madame, mais vous ne pouvez pas changer de vie, quoi. Hein, vous en avez qu'une. Hein, elle a démarré, un jour elle finira, mais vous allez devoir faire avec le temps que vous avez. Alors, en revanche, vous ne pouvez pas changer de vie, vous ne pouvez pas l'échanger pour une autre, mais vous pouvez peut-être changer quelque chose dans votre vie qui va tout changer. C'est-à-dire que ce soit à la fois un mécanisme de déplacement de quelque chose, je ne sais pas moi, un changement de lieu, changement d'activité, changement de partenaire, changement de perspective. Je change un truc et il y a une reconfiguration globale qui va arriver derrière et qui, au bout du compte, me rapprochera davantage de la vie à laquelle j'aspire. Alors, ça pouvait être ça. Alors, si ce n'est bien sûr que beaucoup de gens veulent changer de vie, mais quand on regarde, il y en a peu qui le font. C'est pas si évident. Mais parce qu'en fait, changer de vie, ça implique aussi un certain nombre de... J'ose pas dire de difficultés, parce que c'est pas ça, mais peut-être des précautions à prendre. Il y en a des tas, hein, mais il y en a deux, moi, qui me semblent vraiment... trois, on va dire, qui me semblent vraiment intéressantes. Quand on veut changer de vie, c'est très paradoxal, mais la première question à se poser, ça serait peut-être... bon, alors, OK, je vais changer de vie, mais quand même, qu'est-ce qui va pas changer, quoi ? Qu'est-ce qui a pas vocation à changer ? Il y a très peu de gens qui veulent tout chambouler. Ils voudraient bien changer de vie, mais en gardant, alors, je sais pas moi, qui sont son lieu de vie, son conjoint, sa famille, qui ses amis. Donc, qu'est-ce que je veux garder ? Ça, c'est important quand même. Donc, deuxièmement, est-ce que changer de vie va m'obliger à négocier ? Parce que parfois, si on change de vie, on n'est pas tout seul. Il va falloir demander aux gens qui vivent autour. Hein. Parfois, notre milieu social, notre milieu familial n'est pas très, 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 très chaud pour qu'on change de vie. Et donc, il y a un travail, je crois, aussi de négociation vraiment à avoir avec ceux qu'on a autour de soi, pour en parler. Et enfin, il ne faut jamais oublier que qui dit changement de vie dit apprentissage. Ça, c'est, d'ailleurs, on le sait en management, hein, un changement réussi dans une entreprise signifie qu'on a créé un processus d'apprentissage collectif. Et bien, dans la vie, c'est pareil. Quelqu'un qui veut changer de vie devrait toujours se dire, pour aspirer ou pour arriver, pour me rapprocher de la vie que j'aimerais vraiment vivre, qu'est-ce que je ne sais pas encore aujourd'hui et que je vais avoir besoin d'apprendre ? Et rien que ça, déjà, c'est un travail intérieur qui peut prendre un petit peu de temps, mais qui au moins nous rapproche, étape après étape, de cette vie que l'on pense mériter et qui correspond mieux peut-être à nos valeurs, nos attentes, qui permettra de nous aligner plus que celle qu'on vit aujourd'hui, qui était peut-être une répétition d'autre chose.
Philippe, un grand merci pour cet échange.
Eh bien, merci. Merci à toi et merci à l'APM.
Oui, alors justement, l'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux entrepreneurs qui, face à une situation inédite comme le Covid-19, veulent prendre leur futur et celui de leur entreprise en main ?
Bien, tu vois, moi, juste pour la petite histoire, je suis expert à l'APM depuis 1992. Donc, ça commence à faire un bail. Et pour moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que les adhérents de l'APM ont toujours été des hommes et des femmes qui avaient un point commun, un ou deux points communs. Le premier, c'est que s'ils sont à l'APM, c'est qu'ils sont par définition en mouvement. Ils sont en mouvement au sens intérieur du terme. Ils sont en recherche permanente de nouveaux points de repère. Et la question par rapport à la situation actuelle, elle est là. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le fond, ce qui arrive en ce moment, quelle que soit mon activité, quels sont les points sur lesquels ça me conforte ? C'est-à-dire qu'en gros, Covid-19 ou pas Covid-19, sur ce point-là, j'avais raison. Quels sont les points sur lesquels j'ai maintenant quelques doutes et quels sont les points qui manifestement et on a le droit de se dire à un moment donné sur ce point-là j'avais tort, sur la façon dont je concevais mon rôle, la relation avec mes collaborateurs, la façon de traiter mes clients. Sur ce plan-là, je pense que j'avais tort, je vais devoir me remettre véritablement en question et rentrer dans un processus de transformation. Donc c'est des gens qui sont en mouvement. Et enfin, deuxième élément, la caractéristique de ce type de décideur, c'est qu'ils sont à la fois en mouvement et dans l'ouverture. C'est-à-dire que dans le fond, plus on est dans une situation compliquée comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, plus les antennes doivent être déployées à fond. Plus on doit être totalement, totalement ouvert sur ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'on a une certitude. On est en train de vivre un événement ici qui était totalement inattendu. On nous aurait dit il y a 4 mois, au moment du réveillon du Nouvel An, que 2020, ça allait être comme ça pendant... Mais on aurait dit, mais ça va pas, t'es un grand malade, ça va pas la tête. Bon. Donc, ce qui nous arrive là est totalement inattendu. Donc, c'est normal. C'est-à-dire que la caractéristique du dirigeant politique, économique, social, peu importe, c'est que c'est quelqu'un, quelqu'une, qui passe sa vie à faire des plans qui vont être perturbés par des aléas. Il en a toujours été ainsi. Et pour moi, à l'APM, je leur dis, continuez à être ce que vous avez toujours été, des gens avec une très forte intelligence de l'aléa. Plus on a la capacité à accueillir les aléas, à les digérer rapidement et à se dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire maintenant, plus on est prêt à affronter un monde dont, par ailleurs, rappelons-le, on ne connaît strictement rien. Simplement, on n'est pas tous égaux face au fait d'affronter l'incertitude.
Merci Philippe.
Merci à toi et merci à tous.